Parce que, tout simplement, il s'est mêlé de tout. Il n'avait pas. Justement, il n'avait pas le respect, mal compris, ni par rapport au pouvoir, ni par rapport aux personnes. Enfin, c'était une des caractéristiques, et c'est justement de parler haut et fort ce qu'il pensait qu'il devait dire. D'autant plus qu'effectivement, il ne se présente jamais comme portant un message à eux. Il se présente toujours comme un messager de la divinité. Ce qui est tout à fait pertinent par rapport à notre question, qui est, Dieu parle aux hommes comment, dans le cas des prophètes, il se présente toujours comme étant des envoyés. Avec deux formules clés, une. Encore, purée. Bon, c'est pas ça. Les formules. Une première formule, c'est, on la trouvait tout le temps. Ainsi parle Yahvé, c'est-à-dire dans le cas biblique évidemment, comme il se présente le prophète comme un envoyé du Dieu d'Israël, ainsi parle Yahvé. On traduit maintenant pour faire plaisir à nos amis juifs, ainsi parle le Seigneur. Très bien. Mais cette formule était la formule de l'envoyé. C'est un peu la formule du postier, si vous voulez. Le postier, quand il allait transmettre un message, il les portait écrits dans des tablettes, vous connaissez, avec leur enveloppe même, mais il s'est présenté devant le destinataire. Et il commençait comme ça, ainsi parle un tel. Et il répétait, il disait à haute voix les contenus du message qui était dans la tablette écrit. Bon, mais ce n'est pas du plus con ni plus subtil que ce qu'on fait maintenant. Là, c'était une façon de faire pour être sûr, premièrement, qu'il avait réellement entendu le message. Et même s'il ne. Enfin, l'écrit était un témoignage par rapport à la parole royale. Et on les retrouve tels quels en Isaïe. Écrit le message sur une double tablette, etc., etc. Comme ça, elles serviront de témoignage. Donc, c'est en même temps très. Juridique, si vous voulez. Mais c'était une formule que vous trouvez partout. Hein? Bon, évidemment, étant donné que le courrier n'était pas aussi fréquent que maintenant, quoique maintenant on n'envoie plus de lettres, mais enfin. Mais c'était pour des affaires d'une certaines relevances, enfin, c'était pas pour. Quoique, vous avez effectivement les ostracas ou ont envoyé des petits billets économiques qui accompagnaient les livraisons des produits, etc. On en a des tonnes comme ça. Donc, mais c'était la formule. Mais ça veut dire qu'effectivement, le prophète ne parle pas de lui-même. C'est ça qui est très important. Il ne parle pas de lui-même. Et l'autre formule, qui sert généralement pour terminer, commence à dire, tu as ceci, c'est là, ou tu as, parce que tu as fait ceci, tu vas avoir cela, ou je ne sais pas quoi, enfin bref, oracle du Seigneur, ou oracle de Yahvé. C'est l'autre formule qui, dans les deux cas, veut dire tout simplement, si on peut dire, le tampon, qui théoriquement garantit le destinataire. Par exemple, dans les textes de Marie, dont je parlais tout à l'heure, dans les lettres qui sont écrites au roi avec le message du prophète Budule, montre bien, dit « Si Jean, je t'envoie aussi un morceau de mon manteau comme élément des signatures de ma personne. » Donc, tout ça, ce sont des conventions, des éléments qui permettent d'authentifier ou de trouver le responsable du message envoyé. Alors, le problème, c'est, en dehors du fait que ces machines marchent plus ou moins bien, école de patience. La question qui se pose maintenant, avec toutes les conventions que vous pouvez faire pour authentifier votre message, quels sont les signes qui garantissent cette prétention de dire ou de se dire ou d'être des messagers des dieux? L'imposture et les imposteurs ne datent pas d'hier. Alors, comment authentifier ou... Parce qu'évidemment, c'est dont je vous ai dit de la Bible qu'il y en a plein d'autres prophètes qui n'ont pas été gardés par la communauté comme des représentants des... Dieu, etc., ben, il s'est présenté aussi avec les mêmes formules. Ainsi parle le Seigneur. Alors, et l'autre, ainsi parle le Seigneur qui dit effectivement le contraire. Vous pouvez lire les chapitres 29 ou 28, je ne sais plus, attends, je vous lis ça tout de suite, de Jérémie, une dispute entre deux prophètes, Jérémie et un autre. Et tous les deux parlent pareil. Et l'autre, à un moment, il la ferme à Jérémie. Et Jérémie ne sait pas quoi dire et il part. Et ils parlent tous, ils disent la même. Enfin, ils parlent avec les mêmes formules, mais le contenu, dans les cas précis, était exactement le contraire. Ah, ok. « Voilà, c'est le chapitre 28 de Jérémie. Vous pouvez le lire, ça. Jamais, par exemple, on y dit dans le texte hébreu, on traite les autres des faux prophètes. On les traite de prophètes. Et Jérémie traite son adversaire de prophète. Et l'autre, pareil. Bon, alors. La Bible a essayé de donner des critères pour distinguer les vrais du faux prophète. Mais finalement, c'est assez confus. Et quand il donne un critère qui est clair, il ne marche pas du tout. Si on tient compte de ces critères, un bon nombre des prophètes doivent être jetés à la poubelle. Donc ce n'est pas ces critères qui a été retenu par la communauté pour voir qui étaient les vrais prophètes par rapport à la foi d'Israël. Et c'est pas, c'est ces critères donnés par le livre du Deutéronome, c'est lui, donc le prophète dont la parole se réalise, c'est les bons prophètes. Bon, premièrement, étant donné que les interventions prophétiques sont pour donner un éclairage sur les événements et prendre position, si vous attendez que ça se réalise, ben vous êtes mal barré parce que quand vous le saurez, ben, ça ne servira à rien. Imaginez par exemple que l'année dernière, vous attendiez, enfin, il y a un prophète qui vous dit que le prochain président de la République allait être Mélenchon. Et donc, vous faites confiance, mais après, ça ne se réalise pas. Si vous attendez à voir la réalisation de la parole prophétique, bah, vous aurez perdu le temps. Première faille pour ces critères. Deuxième faille, c'est que, de facto, la communauté n'a pas retenu ces critères. Parce que Ézéchiel même, il a fait un célèbre texte annonçant la chute de Tyr, la ville de Tyr. Alors, un texte, en plus, comme il est fait, très baroque, etc. Annonçant la chute de Tyr, mais vraiment avec des détails. Effectivement, la ville a été assiégée par Nabucodonosor pendant 13 ans. 13 ans. 12 plus 1. Et il n'a pas pu la prendre. Et le prophète lui-même reconnaît, évidemment, j'aurais dit ça, mais finalement, ça n'a pas marché. Et Nabucodonosor n'a pas eu la récompense à tous les travaux, et à tous les travaux qu'il a fait pour moi, etc. Donc, je vais lui donner une autre. Il va lui donner l'Égypte. Alors, c'est encore qu'il va mettre l'Égypte dans les mains de Nabucodonosor. Pas plus qu'avant. Et ça, c'était du domaine commun. Enfin, tout le monde savait que l'Égypte n'avait pas été conquise par Nabucodonosor. Et néanmoins, Ézéchiel fait partie des vrais prophètes. Donc, ce n'est pas ces critères qui comptent. Alors, comment faire? Comment faire une typologie du vrai prophète? Non pas à partir des critères abstraits théoriques, mais en regardant les textes que la Bible a gardés comme des vrais prophètes et voir quelles sont les caractéristiques communes. Et à ce moment-là, vous pouvez tirer à partir du concret des textes prophétiques, vous pourrez tirer un portrait du vrai prophète. Alors, le portrait du vrai prophète, en général, c'est celui qui annonce, pardon, qui dénonce l'insupportable et annonce l'inimaginable. Donc, les deux versants de l'action prophétique, la dénonciation sans retenue de ce qui est insupportable, l'injustice, laissez ci, laissez là, l'idolâtrie, tout ce que vous voulez. Alors là, et deuxième variante, ou deuxième facette, l'annonce de l'inimaginable. Et là, vous avez là les deux critères majeurs que vous pourrez retrouver dans l'ensemble des textes prophétiques. Ces figures prophétiques, enfin, ces prophètes vont devenir une figure de l'espérance essentielle, figure de l'espérance, à côté de la figure de l'espérance qui est le Messie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la deuxième figure d'espérance. Je dis bien figure d'espérance. Il y a la figure du Messie, la figure du prophète. À tel point que vous la trouvez aussi en vigueur à l'époque du Christ, quand ils vont lui demander « Es-tu le prophète ?» Pas un prophète, et ça, tout vous savez. Tout le monde le reconnaissait. Mais « Es-tu le prophète ?» qui doit venir, etc., etc. Autrement dit, le prophète attendu, comme d'autres attendaient le Messie. Et ce sont deux figures différentes, mais qui incarnent l'espérance d'Israël. Ces figures de l'espérance comportait en elle-même, donc justement, une dimension essentielle de révélation. Autrement dit, une composante essentielle de la communication de Dieu aux hommes. C'est dont on parle. C'est pour ça que toutes les deux, en tant que figures d'espérance, une figure de l'espérance constitue des figures révélatrices, des figures de la révélation. Troisième, le prêtre. Ces chapitres aussi, évidemment, traités en 20 minutes, le prêtre, le sacerdoce de l'Ancien Testament, je suis conscient de la dimension ridicule de la chose, mais on n'a pas trop de temps. Quelques éléments quand même pour mettre quelques points sur quelques « i ». Comment Dieu parle aux hommes, comment Dieu se communique par l'intermédiaire des prêtres. Je considère uniquement le prêtre de l'Ancien Testament. D'autant plus que dans les Nouveaux Testaments, il n'y a pas de prêtre. Il y en a un, point. Bon. Qui dit prêtre dit sanctuaire, lieu de culte, vous préférez temple, au fur et à mesure que certains lieux revêtent aux yeux des âmes une dimension qui leur échappe, différente, sortant de l'ordinaire, si l'on peut dire. Au fur et à mesure que les lieux sont revêtis d'une dimension sacrale, ou sacrée, si vous préférez, apparaissent certaines personnes comme douées pour le service de ces lieux. Certaines personnes compétentes pour faire ce qu'il faut dans ces lieux sacrés. Qui, c'est un lieu qui n'est pas comme les autres, ça c'est tout à fait certain. Autrement dit, apparaissent des spécialistes de tel ou tel lieu. Une sorte de gardien de ces sanctuaires, de ces temples, de ces lieux. Originairement donc, le prêtre est celui qui est devenu le gardien, le spécialiste de ces lieux. Vous ne pouvez pas fonctionner de la même façon à Lourdes et à Fatima. Dans des pratiques différentes. Autrement dit, le prêtre devient celui qui sait comment honorer, servir la divinité en ces lieux. On est prêtre de tels lieux, de tels temples. J'aurai un exemple massif dans le deuxième livre des rois, chapitre 17. Il raconte la déportation des gens du royaume du Nord, quand donc le royaume du Nord est tombé entre les mains des Assyriens. Et leur politique était particulièrement, c'est la politique qui a inspiré Staline, par exemple. Vous virez d'un pays l'élite économique, intellectuelle, etc., et vous les envoyez à des milliers de kilomètres de là, et vous y mettez d'autres qui viennent aussi de milliers de kilomètres. Comme ça, l'identité nationale disparaît. Ou en tout cas, c'est dilué d'une façon, à tel point, effectivement, que, par exemple, du Royaume du Nord, du résultat de l'exil du Royaume du Nord, on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus, lui, qu'est-ce qui s'est passé. On sait ce qui est arrivé, enfin, plus ou moins en Israël. Mais dans ce texte, chapitre 17, on nous raconte qu'évidemment, il y a eu donc de nouveaux arrivants sur les lieux, à Samarie, à Bethel, etc. Et comme les prêtres de ces lieux faisaient partie de l'élite, ils avaient été déportés. Donc les nouveaux venus veulent pratiquer les cultes du lieu, mais ils se trouvent coincés. Ils ne savent pas comment faire. Ils avaient une lettre à l'empereur assyrien pour le dire, écoutez, vous êtes très gentil, très mignon, mais enfin, bon, là maintenant on se trouve coincé, le bec dans l'eau, parce qu'on n'a plus de prêtres. Qu'on fasse revenir donc quelques prêtres de ces sanctuaires pour qu'on puisse avoir une vie normale. Là, c'est vraiment l'exemple parfait pour dire qu'est-ce que c'était qu'un prêtre. C'était le spécialiste du sanctuaire local. Les Israélites, une fois qu'ils sont entrés en Canaan, évidemment, ils ont été en contact avec les temples de Dan, de Gabaon, de Beersheba, de Gilgal, de Bethel, etc. Et donc, ils se sont intégrés aussi du point de vue religieux, tout en mettant leur propre celle dans toutes ces histoires. À l'époque classique, donc à l'époque biblique, la fonction de prêtre comportait une facette essentielle et première. La fonction principale du prêtre israélite était, ou judéen, était de donner aux fidèles des instructions, comme on l'appelle, des torotes. Ah, vous avez là écrit. Des torotes, c'est-à-dire c'est le pluriel des Torah. Torah, torotes. Bon, on donne des instructions. Des instructions qui ont trait au pur et à l'impur. Au sacré et au profane. Vous pouvez mettre dans une colonne. Sacré, pur, vie. Et de l'autre côté, impur, profane, mort. La vie des gens était complètement dominée par ces catégories. La vie des gens donc était normalement comprise et sentie dans ses coordonnées. Des purs et des impurs, sacrés, profanes. Que ce soit des manières conscientes ou inconscientes, vous pouvez devenir impur. Bon, par exemple, vous allez faire une balade dans la forêt, et ça vous rendra compte, claque, vous cognez l'os d'un chat sauvage. Bah, vous êtes impur. Tout contact avec la mort ou qui rapproche à la mort vous rend impur. Parce que l'impur, c'est dans la même colonne que la mort et que le profane. Et après, il faut donc revenir à l'état de pureté. Ou à l'état de sacré, si vous voulez. Dans le livre du Lévitique, les 7 premiers chapitres concernent le rituel des sacrifices. Et à chaque fois, par exemple, on vous dit, si quelqu'un, par inadvertance, pêche contre ceci ou contre cela, il devra faire tel sacrifice, par inadvertance. Donc il n'y avait pas, à cette époque, ça viendra plus tard, disons, la faute volontaire. Mais, bon, par exemple, un truc qui va vous paraître un peu tordu, mais les femmes, une fois par mois, elles sont impures. S'ils aiment, bien, sinon, tant pis. Mais c'est comme ça. Et donc, elles doivent faire toute une série d'actes pour revenir au tas pur ou à l'état de sainteté, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que elles perdent du sang et la vie est dans le sang. Toute perte de sang est une perte de vie, donc ça vous éloigne de Dieu. Parce que Dieu est la sainteté, c'est-à-dire la vie. Ceux qui sont le plus loin de Dieu, c'est qui ? Ben, les lépreux, par exemple. Parce qu'ils sont considérés, parce qu'ils sont de la pourriture ambulante. Donc du coup, il faut isoler tout ça, enfin bref. Mais tout ça, attention, tout ça c'est du point de vue rituel, pas moral. Vous êtes impur, rituellement, donc vous ne pouvez pas accéder au temple, parce que le temple c'est les lieux d'invitation de la divinité qui, par nature, est la source même de la vie et la vie elle-même. Donc, il vous faut vous mettre en situation de pureté et de sainteté pour être en accord et en relation avec Dieu, avec la divinité.
Excusez-moi, mais pour les femmes, quand elles ont leur cycle
menstruel. Comment ?
Pour les femmes, quand elles ont leur cycle menstruel,
oui, tout à fait, oui, oui. Tout à fait, oui, oui, oui. Oui.
Il y a des bains, il y a des bains après pour redevenir pur.
Oui, il y a tout de vrai. Mais ce n'est pas seulement des bains, mais des sacrifices. Attendez. Vous êtes trop jeune, mais j'ai quand même connu encore. Dans l'église catholique romaine, quand une femme a accouché, elle restait pendant 40 jours en quarantaine. Et après, il y avait un rituel pour la réadmission dans l'église. On avait retrouvé les mêmes mécanismes, si vous voulez, que dans l'Ancien Testament. Parce que quand il faut, comme dit l'autre, c'est un mouvement en marche arrière. Ce n'est pas la seule marche arrière, mais là, c'était vraiment très net. Hein. Marche arrière.
Parce qu'à l'époque, ce que vous dites,
là. Bah, écoutez, j'ai 73 ans, hein, donc j'ai vu ça de mon vivant. Je n'ai pas rêvé. Et je me souviens très bien, par exemple, à quel point... Actuellement, par exemple, quand vous préparez quelqu'un, une famille ou même trois ou je ne sais combien, l'an dernier, on a eu 10 d'un coup, pour les baptêmes de petits. Maman, on dit pour les parrains et marraines. Quand j'étais jeune, c'est-à-dire jadis et gourmande, les parrains et les marraines avaient une importance différente que maintenant, mais le baptisé était présenté au baptême par la marraine ou par le parrain. Pourquoi ? Parce que la mère n'était pas là. Ah mais non, la mère n'était pas présente au baptême des enfants. Elle était impure. Même si les bébés étaient trop mignons, c'était mon cas, mais enfin bon, à part ça, la mère n'était pas là. Elle ne pouvait pas y être. D'autant plus qu'il y avait une pression maximale pour les baptiser au plus vite. Mon curé, qui était pareil, un type extra, mais enfin, c'est malade maintenant de voir, par exemple, qu'on baptise 10 mois plus tard, 1 an plus tard.
Et 2 ans.
Oui. Et j'étais... Mais cette mentalité, je me souviens très bien, une des fois, pas la seule, où je suis sorti de la messe dominicale Furax, et c'était pas loin d'ici, c'était à Saint-Germain-des-Prés. C'était au début du mois de janvier. C'était le dimanche où on commémorait le baptême du Christ. Le curé, dont je tairai les noms, a fait tout un sermon insistant lourdement sur le fait que bon, le baptême des adultes, oh, c'est pas mal, mais enfin bon, ce qui compte, le baptême des petits. Les petits, plus c'est petit, plus c'est mignon, plus il faut les baptiser. Mais c'est quelqu'un qui se targue de progressiste. Alors, je suis parti ostensiblement devant tout le monde. Ça, c'est inadmissible, quoi. Enfin, théologiquement, ça ne tient pas debout. Mais enfin, bon. Donc, le prêtre était chargé donc de donner ses instructions pour savoir ça. Enfin, si vous étiez en état de pureté ou pas, si vous pouviez entrer dans le sanctuaire, dans l'état où vous étiez, vous disiez oui, mais je sais pas. Par inadvertance, justement, j'ai fait cuire un bout de viande avec 3 gouttes de lait. Alors là, bon, c'est une... Bon, enfin, bref, toute une série des faits considérés du point de vue rituel encore comme incompatibles avec la sainteté des dieux, donc avec la vie, avec la pureté des dieux, etc. C'était la fonction principale. Et Ézéchiel va les reprocher, d'autant plus qu'il était prêtre. Au prêtre, il va les reprocher. Vous n'avez pas enseigné à mon peuple la différence entre les purs et les impurs. Vous n'avez pas fait la différence entre les purs et les impurs. Ces instructions, c'était vraiment forgé et constitué dans le temps. Et les prêtres apprenaient ça, c'est qu'on peut dire, par tradition. D'autant plus que le métier du prêtre était héréditaire. On était prêtre de père en fils. Par exemple, en Ézéchiel, on nous dit, parole de Ézéchiel sera fils des Buzi, prêtre. Donc, si son papa était prêtre, lui aussi, si ça lui plaît, comme si ça ne lui plaît pas. Bon. Et c'était comme tous les métiers étaient héréditaires. On ne pouvait pas avoir la vocation de prêtre. Une autre activité des prêtres, qui est quand même importante, était liée au sanctuaire, au temple. Bon, là aussi, leur instruction était donnée à l'entrée du temple. Mais ça, c'était la même chose dans tous les autres temples. Dans, en Égypte, par exemple, les conditions d'entrée au temple. Vous avez le psaume 15 et le psaume 24, qui montera dans la montagne du Seigneur, qui entrera dans la joie, c'est lui qui toc, 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 toc. Et si vous êtes dans les toc, 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 en avant, sinon dehors. Et ça, vous avez exactement les mêmes systèmes dans les temples égyptiens. L'autre activité propre des prêtres dans les sanctuaires, c'était en relation avec les sacrifices. Alors, ça serait, encore une fois, il faudrait 3 semaines au moins pour parler ça, mais bon. Les sacrifices, les offrandes ont été une activité essentielle dans toutes les religions, dans la plupart, même si parfois ils avaient pris des significations assez variées. La fonction de prêtre lors des sacrifices, consiste non pas à immoler, c'est-à-dire non pas à tuer la victime, il y en avait d'autres qui pouvaient les faire, donc celui qui offrait le sacrifice de communion pouvait sacrifier lui-même, autrement dit, pouvait tuer, immoler. Mais la manipulation du sang était réservé au prêtre parce qu'il était censé être dans une situation d'impureté. Et pour toucher le sang ou manipuler le sang, il faut être dans l'état de sainteté maximale. Étant donné que le sang...
On parle de quel type de sacrifice
là, je parle de l'Holocauste, du sacrifice des communions, je parle du sacrifice Hacham, qui est le sacrifice, disons, pour faire simple, pour ne pas compliquer, d'expiation, le sacrifice pour les péchés, enfin, tous les sacrifices sanglants. Dès l'Ancien Testament, toujours. Hein. Mais le prêtre était censé manier le sang. Il y avait toujours une partie, au moins, qui était versée sur l'autel. Et une autre partie, versée par terre, etc. Bah, par exemple, je ne sais pas si vous êtes allé en Israël, Palestine, si vous avez visité, par exemple, la célèbre piscine Bethesda, par exemple. Et là, on vous présente deux grands bassins qui sont censés être des piscines. C'est vrai, piscines. Ce sont des réservoirs d'eau pour le temple. Imaginez, par exemple, à Pâques, il y avait en gros 25 000 agneaux qui étaient zigouillés. Imaginez les sangs. Et imaginez les mouches. Ça demande un système de propreté où il faut de l'eau. Et ces célèbres piscines, entre guillemets, c'était des réservoirs pour le temple. Donc, le prêtre était là, effectivement, du point de vue sacrificiel, dans les holocaustes et dans les autres, pour manier le sang. Mais ce n'est pas lui qui était, c'est lui qui immolait, dans certains cas. Oui, mais ce n'était pas sa tâche principale. D'autant plus que l'essence du sacrifice ne réside pas dans l'immolation. Contrairement à ce que certains prières eucharistiques les disent. Ça, c'est parce que on a fonctionné toujours avec un schéma sacrificiel pompé des religions autres qu'on a appliqué au sacrifice de l'Ancien Testament, l'immolation. C'est pas le fait de mettre le couteau dans la gorge de la victime que c'est pas en cela que consiste le sacrifice. C'est ça explicitement dit dans le livre du Lévitique. Le fait que le prêtre doit manipuler le sang parce que la vie est dans le sang. Et le texte dit, en mettant ses dans la bouche de Dieu, et je vous ai donné le sang pour l'expiation, c'est-à-dire pour tout l'ensemble du rituel sacrificiel. Les dons de la vie faits par Dieu englobent donc des paroles par les prophètes, etc. Et également tous les systèmes sacrificiels et autres dont les prêtres sont les pivots, si l'on peut dire, parce que ça permet d'être en relation aussi avec la divinité. Et les deux facette de l'activité du prêtre, c'est qu'on comprend très bien, donc les instructions qu'il doit donner, qui sont censées donner par Dieu, parce que les instructions viennent de la Torah qui a été donnée par Moïse, le médiateur, les porte-parole de la révélation, et en même temps, tous les systèmes sacrificiels qui est, disons, activé par les prêtres, etc., est censé aussi venir des dieux, parce qu'il est, il fait partie de la Torah. Tous les systèmes, tous les rites sacrificiels sont explicitement décrits et organisés dans la Torah. Donc, de ce point de vue, les prêtres sont tout à fait dans le, comment dire, dans les logiciels de la révélation dans deux variantes qui ne sont pas les plus sexy, mais enfin bon, quand même, ça fait partie aussi de la communication des dieux avec son peuple. Comme je disais, donc, dans l'ordre de la révélation, le rôle des prêtres est moins actif et explicite que celui des prophètes. Ça, c'est certain. Mais dans l'ordre de l'action, le temple, les système sacrificiel, ainsi que les instructions qu'ils doivent donner, sont quand même, relèvent donc aussi, comme je disais à l'instant, de la révélation. Et pour finir, justement, un petit mot. Dans la perspective de l'espérance, on a vu que le roi Messie donc incarnait une figure de l'espérance, le prophète aussi, le prêtre. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un prêtre ? Fut-il parfait ? Ben rien. Il n'y a pas eu de figure d'espérance incarnée par le prêtre, sauf à Qumran. Qumran, comme vous savez, c'était un groupe, disons une secte, une dissidence des prêtres. Un groupe de prêtres qui n'étaient pas d'accord, enfin, un peu comme Lefebvre, hein, qui n'étaient pas d'accord avec les prêtres du temple de Jérusalem, et ils ont fait leur propre cabanon à part. Et donc, effectivement, ils étaient très sacerdotalisés. Et eux, dans leur texte propre à la secte d'ailleurs, ils apparaissent l'attente d'une messie davidique, mais à côté, une messie prêtre. Mais c'est le seul cas, d'après ce qu'on connaît, où la figure du prêtre a incarné une certaine espérance. Une espérance certaine, mais c'est Qumran, c'est tout. Bon, je m'arrête là, il est 59. Et vous aurez ces textes. La semaine prochaine, je dirai un mot quand même. Oui. Moïse n'était pas un prophète. Enfin, il faut voir de quoi on parle. Du point de vue historique, Moïse a supposé qu'il existait, mais sinon il aurait fallu l'inventer. Mais Moïse n'était pas un prophète historique, comme Isaïe, comme Sophonie, comme... Non, pas du tout. Mais, étant donné qu'à un certain moment, la figure du prophète est devenue très importante pour certains groupes, évidemment, on a collé l'étiquette des prophètes, et dans les Deutéronomes, ils disent, effectivement, il n'a jamais eu un prophète aussi grand que Moïse, avec lequel Dieu parlait face à face, etc., etc. Et non pas comme à d'autres prophètes, par songe, je ne sais pas quoi. Bon. Mais la figure, même, il y a un texte où on dit qu'Abraham était prophète. Oui, comme moi, cosaque, à peu près. Mais ça montre qu'à un certain moment, la figure du prophète est devenue une référence et une clé de compréhension. Mais historiquement, non.
Oui. Les rois, ils sont apparus à un moment. Comment dirais-je ? Les rois, ils n'étaient pas souhaités par Dieu, ils étaient souhaités par le peuple.
Oui, bon, ça, là, encore une fois, il faut voir, effectivement, du point de vue historique, évidemment, Saül, les textes le disent clairement, il a été choisi d'abord, pourquoi ? Parce qu'il avait gagné une bataille quand le peuple était vraiment dans une posture très mauvaise. Du coup, comme il a gagné cette guerre, etc., et en plus, ils vont nous dire qu'il était très grand et très beau, etc. Donc, il avait gagné, il était très beau, très grand. Bon, donc, on l'a fait roi comme ça. Ensuite, il y a la légitimation religieuse qui vient après. On va lui mettre un bonnet, ou une mitre, si vous voulez, religieuse. La justification vient après. Et ça, nous avons explicitement, c'est là, dans le cas de Saül, et encore plus énorme dans le cas de David. Bon, David, comme je crois qu'on avait lu l'autre fois, comme David a dû fuir parce qu'il était persécuté par Saül, etc. Il avait bien gagné quand même. Bon. Et ils disent, il s'est réfugié dans la grotte de Adullam, et il vint séjourner à lui, sa famille, ses frères, son père, c'est pourquoi, parce qu'évidemment, si lui, il était en danger, toute la famille aussi. Il s'est joignir à lui tous ceux qui avaient des difficultés, tous ceux qui avaient des dettes, et tout le mafieux du coin. Et il fut leur chef. David, on le présente comme ça, comme il est devenu roi, David. Mais après, évidemment, vous avez l'autre version religieuse, l'onction du petit David par Samuel. Il est envoyé, c'est le papa de David, Dieu lui a envoyé. Je te dirai lequel. Évidemment, il y avait 7 enfants. Il passe l'un, et puis Dieu lui dit, on ne sait pas comment, il lui dit non, pas celui-là. Le suivant, non, pas celui-là, pas celui-là. 7, il n'y en a plus, rien. Il dit, tu n'aurais pas un autre comme ça, un peu un tardillon quelconque? Il dit, ouais, bon, il y en a un qui... Mais il est avec les brebis. Bon, qu'il vienne, évidemment, c'était lui, les plus petits. En plus, il était roux, il était... Enfin, tout pour... Mais ça, la légitimation religieuse vient après. Vous avez dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, la célèbre prophétie de Nathan, qui consolide théologiquement la dynastie. Et le texte commence. Quand le Seigneur délivra David de tous ses ennemis, il dit au prophète Nathan, bon, c'est quand même pas très bien, que l'arche du Seigneur reste sous une tente, et moi ici, dans un palais, etc. Et le prophète, qu'est-ce qu'il lui dit? Va et fais tout ce qui te passe par ton cœur. Étant donné qu'il gagne, le Seigneur lui a délivré tout, ben, ça, c'est une preuve clé que Dieu est avec lui. Donc après, il y a toute la mousse théologico-religieuse qui vient...
Les derniers rois, c'était avant les invasions grecques, romaines, etc. Le dernier roi, les derniers rois d'Israël, c'était qui?
Les derniers rois à Jérusalem étaient Sédécias, qui avait été mis par Nabucodonosor à la place de son neveu, qui avait été Joachim, qui avait été exilé avec la population, la première déportation en 597. Ensuite, il y a eu l'épisode de la royauté des Maccabées. Et là, c'est encore plus glauque que les autres. Bon. Anne veut vous dire quelque chose, je crois.
Tout va bien.
Ah non.